Yalla yalla.
Salut, lundi, midi, c'est l'heure des points sur les i.
Point barre.
Avec les camarades de l'association Davids, déploiement de l'art vital intersubjectif qui déconstruit sur la brèche. Davids contre Goliath.
Vous avez vraiment, vraiment des manières que j'adore.
Ça commence à se savoir. Commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Mais n'ayez pas peur.
Non, n'ayez pas peur.
Je sais ce que c'est que la radio.
Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus 106,6. C'est l'heure des points sur les i. Point barre avec le collectif Davids. Avec moi dans les studios, Christophe, bonjour.
Bonjour.
Baptiste.
Salut.
Salut, salut. Et Simon aux manettes. Et puis, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, messieurs ?
Eh bien, je vais commencer par conseiller à mes chers camarades auditeurs de trouver un film qui est un joyau du cinéma français avec un acteur que j'apprécie beaucoup et qui a eu le courage pendant la Seconde Guerre mondiale de ne pas continuer de faire du cinéma car il était possible de faire du cinéma. Goebbels avait créé une maison de cinéma et certains acteurs français ont trouvé tout à fait naturel de continuer d'avoir des financements pour tourner des films. Je tairai les noms, bien sûr, parce que je suis quelqu'un de très gentil et ça sert à rien de remuer la boue de la collaboration. Le temps a passé, il faut savoir, dépasser le passé, si je puis dire, et ne pas radoter. Et cet acteur qui est allé aux États-Unis s'appelle bien sûr Jean Gabin. Et ce film s'appelle « Touchez pas au Grisby ». Voilà, c'est un film tout à fait savoureux. Les dialogues, je pense, sont de Michel Audiard. Touchez pas au Grisby. Grisby signifiant, bien sûr, le pognon, l'oseille, l'argent, la thune, etc. etc. J'ai pris connaissance d'une manière surréaliste, bien sûr, de la lettre du président de la République, Emmanuel Macron, époux de Brigitte Macron. Et voilà ce que j'en aurais à dire. Eh bien, tout est déjà dit, c'est touchez pas au Grisby. Pourquoi ? Car il y a une... Qu'est-ce qui se passe ? Non, parce que je vois mon camarade qui fait des signes.
Eh ben, c'est pas grave, continue, les gens ne les voient pas, eux.
Ah d'accord. Non, c'est parce que je ne savais pas ce que ça signifiait comme conseil ou d'interruption, où j'étais en train de glisser. Voilà, pour le moment, ce sont des paroles tout à fait cohérentes, avec une touche d'humour, il en faut. Dans la lettre, il y a... deux, trois phrases tout à fait savoureuses, qui sont au moins tout à fait claires, qui signifient qu'il est bien entendu que les dispositions qui ont été prises depuis son élection pour relancer le pacte entrepreneurial et comment dirais-je, permettre la croissance, la lutte contre le chômage, etc., ne saurait être remise en cause. Ça, c'est sans le dispositif dans la partie fiscalité. Tout le monde a bien compris, pour lire entre les lignes, parce que c'est un texte très euphémistique, que, bien sûr, le sésame, le nirvana, la clé du ruissellement par le bas, c'est-à-dire l'impôt sur les grandes fortunes, a priori, si je puis dire, serait considéré comme un totem, une table de la loi auquel il ne faudrait pas toucher. Or, me semble-t-il, parce que c'est toujours très très délicat, il semble clair que de Navarre à l'Alsace et du Midi au Sud émerge quand même comme cri, comme pancarte, et dans toutes les assemblées, les ronds-points, etc., dès qu'on interroge, si je puis dire, et qu'on laisse passer dans les médias officiels des gilets jaunes, hommes ou femmes, et, presque mathématiquement, presque toujours, la revendication de l'impôt sur les grandes fortunes, auquel le peuple français semble attaché comme étant un symbole de la justice fiscale, est mise en avant. Voilà, je pense que il y a déjà des sondages qui ont été faits, il y a à peu près 80-85% des Français qui sont pour rétablissement pour l'impôt sur les grandes fortunes. Enfin, ça, c'est un sondage qu'on ne rappelle pas ou qu'on ne va pas faire. Là, visiblement, cela semble passer à l'as. Alors après, je ne vais pas disserter sur faut-il participer, faut-il pas participer, etc., etc. Chacun est libre de son appréciation. Je ne suis pas là pour donner des mots d'ordre. Voilà, en tout cas, mon premier commentaire de la lettre du président de la République, ce serait « touchez pas au Grisby », car j'avais dit, quand l'impôt sur les grandes fortunes avait été supprimé et lors des premières mesures fiscales du chef de l'État, que d'entrée de jeu, et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, eh bien, une certaine caste, les 0,1% les plus riches, avaient concrètement reçu un chèque, eux, et une augmentation de leur pouvoir d'achat. Des économistes, d'ailleurs, ont calculé combien M. Arnault, M. Dassault et ses familles avaient d'augmentation de leur patrimoine directement lié aux dispositions fiscales qui avaient été prises. Donc, il ne faut pas oublier que certains ont déjà eu un retour sur investissement avec l'élection du chef de l'État et que la caricature de président des riches n'est pas simplement un trait d'humour ou un mot d'esprit des Pinceaux Charlot ou d'autres personnes qui réfléchissent. Cela a été validé concrètement sur le réel. Voilà. Donc ça, c'était mon premier commentaire. Touchez pas Grisby, voyez ce film avec Jean Gabin, il est très savoureux.
J'ai bien aimé ton idée de, non pas de parler de pacte républicain, mais de pacte entrepreneurial. C'est en fait un pacte républicain PPP, pacte public-privé. Et c'est bien ce à quoi il est question dans ce gouvernement et la politique menée, enfin, et d'ailleurs avant lui, hein, même si celui-ci, c'est vachement plus cash et visible. Eh bien, peut-être que on pourrait... Pour ma part, moi, je vous ai ramené une interview de trois musiciens qui sont avant tout des militants, puisqu'ils se sont rencontrés à Bure. Bure, c'est le lieu du projet Cigéo. Et le projet Cigéo, c'est le plus grand projet industriel européen. Plus de 100 ans de travaux, des dizaines de milliards d'euros. Pourquoi faire ? Eh bien, on en a déjà parlé dans cette émission. Pour enfouir les déchets radioactifs les plus dangereux, les plus radioactifs justement, c'est-à-dire 99% de la radioactivité française. Voilà. Donc, quelques petits éléments. Simplement, donc, je les ai rencontrés ce week-end à l'occasion de 3 jours autour du nucléaire organisé par le collectif L'Île Radiée. Et puis, bah, je vais m'arrêter là et vous laisser les écouter. Donc là, je suis avec Xavier, David, Achille. Et vous avez créé un groupe qui s'appelle les Buraleurs.
Tout à fait, oui.
Donc Bure, plus loin, à l'heure.
Ouais.
Voilà. Vous pouvez nous expliquer déjà le nom de ce groupe.
Tu veux expliquer, Pépère ?
Eh bien, Bure, puisqu'on est, du coin de Bure, on s'est retrouvés à Bure sur la lutte, et à l'heure, parce que c'est les chemins de halage, Et on est dans un projet de suivre les rivières qui partent du secteur de Bure pour aller informer les populations du projet de Bure. Et pour cela, on va en vélo. Tous les ans, on fait un halage en vélo qui nous mène le long du canal où on traverse les villages, on va sur les marchés des villes et on va apporter l'information sur le projet de Cigéo. C'est pour ça que nous sommes les Bure à l'heure, parce que nous prenons les chemins de halage.
L'État lui-même assure pas sa mission d'information des populations. Le nucléaire, ça a commencé comme quelque chose de militaire qui était top secret pour l'armement. C'est toujours resté un sujet de spécialiste où la population n'a jamais été impliquée dans les décisions. Tout a toujours été imposé à des échelons locaux avec des pressions financières. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'être des halleurs, de faire cette information qui n'est pas faite. Parce que pour nous, le nucléaire réussit à s'imposer seulement par le secret. Mmh. Et en brisant ce secret, eh ben on pense empêcher les choses de se mettre en place aussi facilement au moins.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Bure, c'est un site qui n'était absolument pas pressenti à la base. Quand ils cherchaient les différents labos pour faire les forages et comparer les différents sites, Bure n'était absolument pas dans la liste des sites pressentis. Mmh. Et c'est devant la mobilisation générale de toutes les populations, quand tu t'es compris qu'une poubelle nucléaire, c'est pas ce qu'il y avait de mieux pour eux, qu'ils se sont dit, bah, tiens, où c'est qu'on pourrait aller, qu'ils ont vu un coin là un peu perdu entre la Meuse et la Haute-Marne, qui est presque un trou du cul du monde, où il y a 7 habitants au kilomètre carré, et où les gens ont toujours été, toujours voté à droite, ont toujours été très dans la ligne qu'il faut. Et ils ont dit, bon, bah, là, ça paraît idéal. Donc, de l'argile, en plus, ça va le faire. Mm-hmm. En fait, il s'avère que donc l'endroit, c'est sur une faille sismique qui est à peu près la même que celle de Fessenheim, là, qui continue, et qui a eu près de 80... tremblements de terre, bon, des mini-séismes, d'accord, il n'y a pas eu de tremblements de terre majeurs, mais il y en a régulièrement. Mmh. Donc ça, c'est, ils veulent construire ce centre d'enfouissement sur une faille sismique. En plus, on a dit tout à l'heure qu'il y avait un maximum de flotte, là, c'est un ruissellement constant. Ils essaient de nous expliquer qu'il n'y a absolument pas d'eau, il monte encore.
Mmh. À Tchernobyl, c'est un réacteur avec son contenu qui s'est retrouvé dans l'atmosphère. À Fukushima, c'est un réacteur avec son contenu. Là, sur Bure, on va mettre tous les contenus de tous les réacteurs usagés, toutes les matières les plus dangereuses, produites depuis 50 ans et pour les 70 ans à venir.
Oui, parce que
on est dans une ampleur complètement démentielle. C'est vraiment très difficile mentalement d'arriver à appréhender le projet Cigéo. Ça demande beaucoup de temps, d'informations pour arriver à commencer à se faire une image.
Parce que le projet Cigéo, ce n'est que 3% de la masse totale des déchets radioactifs, mais c'est 99% de la radioactivité. C'est-à-dire que c'est que les cœurs de réacteurs, les ogives nucléaires, et c'est du gros, du lourd, du méchant, tout ça concentré dans le même endroit. C'est une horreur, bien sûr, pour toute la région Grand Est, c'est une horreur pour toute la France, pour toute l'Europe. En plus, ce projet-là, s'ils arrivaient à le mener, ils vont le refaire partout dans le monde. Mmh. Parce qu'ils auront la licence française qu'en France, on sait faire l'enfouissement. Et alors, ils vont le faire partout, là où ils ont vendu des centrales nucléaires. Il y en a partout dans le monde. Mmh. Il va y avoir des dépôts comme Bure partout, si on laisse celui-là. Bure, c'est vraiment le combat, aujourd'hui, du monde entier. Mmh.
Oui, parce que c'est une manière de légitimer toute la filière, c'est dire, ah bah regardez, on gère toute la filière uranium.
C'est déjà commencé, il y a déjà des industriels chinois qui sont venus voir l'Andra au sujet vraiment très, capital pour l'industrie nucléaire, de l'acceptation en surface du projet. Mmh. Voilà, ces industriels chinois étaient venus demander un peu à l'Andra, comment vous faites, vous,
pour que les gens soient d'accord.
pour que ça passe, ouais.
On pourrait les inviter à aller au WIP aux États-Unis, ouais. Plutôt les Chinois, vu que.
Bah oui.
Hein, puisque ouais. Là, ça.
Ou AS.
Ouais, ou AS.
Ouais. D'ailleurs, c'est AS en Allemagne,
Ouais.
Qui est dans les mines de sel où on a stocké des matières nucléaires. À l'époque, le député Bataille le citait en exemple quand il est venu prospecter en 92 dans le coin de Bure pour trouver un endroit où implanter le laboratoire.
Et avant de faire.
Et pendant une dizaine d'années, c'est un projet qui était toujours cité en exemple de voilà, à Bure, on va faire comme à AS en Allemagne. Et en Allemagne, il n'y aura jamais d'eau. Il n'y aura jamais d'eau dans ces mines de sel. Et qu'est-ce qui s'est passé 10 ans plus tard? C'est plein d'eau. Vous imaginez que maintenant, à Bure, on ne parle plus du tout de...
Étrange. Étrange.
Bah, logique. Mm-hmm. Ça fonctionne comme ça. Plus on est dedans, au bout d'un moment, on n'est plus surpris du tout. C'est les pratiques.
Mm-hmm. Et puis, à WIP aux États-Unis, c'est un incendie qui a duré plus d'une semaine, incontrôlable, et là, ils sont en train de penser à abandonner le site, quoi.
Oui, c'est toujours en feu, c'est toujours en feu là-bas. Et ça continue, ça dégaze tout le temps, ça pollue la planète, comme Fukushima, comme Tchernobyl, comme toutes les centrales en France dégazent, comme tous les projets qui dégazent tout le temps, tout le temps. Il y a de la radioactivité partout dans le monde.
Ouais. Et du coup, vous recevez en général, enfin, c'est quoi l'accueil que vous recevez par rapport aux informations justement que vous apportez ?
Eh ben, ça dépend de qui on parle. Donc, on demande toujours officiellement à être accueilli par les maires des communes. Étant donné qu'en France, l'État est carrément nucléaire, c'est une volonté nationale. C'est un sujet un petit peu tabou où les gens ont du mal à parler l'opposition est très stigmatisée. Et quand on fait quelque chose. Les élus, souvent, on reçoit porte-close, on ne reçoit même pas de réponse. Donc, nous, ce qu'on fait, on envoie un courrier, on dit on demande rendez-vous, on vient à telle heure à la mairie, on ne reçoit pas de réponse, donc on prend ça pour un oui, et on vient voir, et en général, on ne voit personne du côté des élus. Mais par contre, nous, notre mission, c'est d'aller au contact des populations, ceux qui croient savoir, ceux qui viendront jamais s'informer, parce qu'ils ont tellement été, on leur a tellement rabâché un discours sur le nucléaire qu'ils croient tout savoir. Et c'est aller au contact de ces gens, leur parler, et arriver à briser la glace. C'est pour ça qu'on a choisi le parti du comique, du burlesque, pour faire un petit jeu de mots, pour arriver à dédramatiser le truc et arriver qu'on en parle posément, sans tous ces trucs, sans ces on va pas revenir à la bougie, ou on va pas revenir au temps du Moyen-Âge, ou toutes ces idées préconçues, quoi. Et à ce niveau-là, eh ben, on remarque que ça demande du temps. Il faut aller au contact des gens, mais l'accueil est très bon. Une fois qu'on a pris un petit peu le temps de discuter avec les gens, ils sont vraiment subjugués par toutes les informations qu'on peut leur donner. Le plus dur, c'est d'arriver à lancer la communication. C'est un travail vraiment de terrain. Et donc, c'est tout ça l'objet du halage du débat, aller sur les places, voir les gens.
Alors, il y a 2 ans, on avait fait Bure-Maastricht en suivant la Meuse. Et donc, on est passé en Belgique. Et on a été beaucoup mieux reçus, je veux dire, par les officiels belges que les officiels français qui nous ignorent, je veux dire, systématiquement. Et en particulier, il y avait, comment s'appelait la ville là ?
Dinan.
À Dinan.
Où le maire. Dinan.
Ouais. Dinan, Dinan, à l'atome. Et donc, le maire nous a reçus à la mairie. On nous a mis à disposition la petite cour devant la mairie. Et on avait donc notre petit système de sonorisation là, avec un vélo, donc le système de dynamo là, qui fait fonctionner une petite sono. Et le maire a pédalé pendant au moins 10 minutes.
Sur le nucléaire.
Il est venu pédaler avec nous.
Deux jours avant, à Verdun, on avait demandé un rendez-vous avec le maire de Verdun qui nous avait répondu qu'il nous recevrait. Et quand on est arrivé à la mairie, c'est une nana des RG qui est venue nous dire « le rendez-vous est annulé ». Ça veut dire que le préfet fait pression sur les maires qui finissent par se coucher. Ouais. C'est comme ça en France.
Et quand ce n'est pas des pressions de l'ordre d'aller voir un maire pour lui dire de ne pas vous recevoir, c'est tout ce qui se passe autour du groupement d'intérêt public dans la Meuse.
Il y a déjà une pression naturelle quand on est dans 2 départements, la Meuse et la Haute-Marne, qui sont des départements qui ont déjà vécu leur temps avec l'industrie de la sidérurgie il y a 1000 ans. Aujourd'hui, c'est des départements ils sont un petit peu vides d'activité depuis tout ce temps. Et pour une commune, faire des aménagements, des infrastructures, une école... rien que des choses comme ça, une médiathèque, hein, des choses qui servent pour les gens. Le seul moyen, c'est de demander des subventions, parce que dès qu'on demande une subvention, on envoie le truc, on demande pas si c'est l'ANDRA ou quoi. On demande sa subvention normale, et c'est seulement tout au bout du processus que l'ANDRA, pas l'ANDRA mais le GIP, arrive et dit, eh bien moi je finance à hauteur de 20%. Et donc ou on accepte ça, ou alors on prend rien. Donc pour faire des travaux dans sa commune, on se retrouve avec une pression naturelle, et on se dit si j'accueille des antinucléaires dans ma mairie, qu'est-ce que ça va faire si je demande une subvention derrière, c'est quelque chose qui est un peu insidieux, quoi.
Le GIP, je précise pour les auditeurs que c'est le groupement d'intérêt public, vous m'arrêtez si je dis une connerie, qui est mis en place par l'ANDRA en fait derrière pour et l'ANDRA, donc Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs.
Alors en vrai c'est pas l'ANDRA, je pense pas que c'est l'ANDRA qui met en place, hein, c'est un truc public. C'est un groupement censé ramasser des fonds pour accompagner un projet.
c'est les sous du nucléaire, et c'est 30 millions d'euros pour la Haute-Marne et 30 millions d'euros pour la Meuse depuis 10 ans. Mmh. Et c'est donc un tiers du budget de chaque département, deux plombras, tout le monde est pris, tout le monde est serré, plus personne ne parle. Il n'y a plus qu'un seul maire dans toute la Champagne-Ardenne, celui de Bettencourt, mmh, qui est contre le projet et qui le dit haut et fort. C'est le seul qui ne touche pas un centime. Il y a zéro centime qui rentre du nucléaire à Bettencourt. C'est le seul. Tous les autres, ils mangent. Tout le monde mange et tout le monde se tait parce que, soi-disant, qu'on peut pas cracher dans la soupe.
Oui. Alors, il y a eu d'autres. Il y a eu à Bonnet, Jean-Pierre Remel, qui était un maire qui s'opposait aussi à l'implantation du site et qui était très opposé à ça. Mmh. Et donc il a réussi à être maire de la commune, ça a duré une municipalité, et puis il nous a raconté qu'il y a des gens de l'Andra qui sont passés faire pression sur des gens de son équipe. Donc en même temps, il a eu toutes les choses qu'on connaît, il n'a pas eu de subvention pour faire les choses dans son village, il a eu des pressions énormes. Mmh. Et donc au bout de son mandat de 5 ans, en face ils ont le temps, ils ont un projet qui est très long. Donc lui, il fait son voilà, il s'épuise familialement et tout ça, c'est des choses qui pèsent très lourd sur la personne. Mmh. Et arrivé au mandat suivant, son équipe municipale a été vachement attaquée. Mmh. Donc il se retrouve avec 4 en moins sur son équipe de 9, et puis en face, il se retrouve avec un gars que lui, s'il passe, il annonce des projets parce que derrière, il va avoir toutes les subventions qui vont avec. Mmh. Et c'est comme ça que Jean-Pierre Remel a duré un peu, et maintenant c'est un autre qui a pris la place. Mmh. Et avec le temps, comme ça, le projet avance doucement.
Ouais. Ouais. Et Léodra, qui est l'association des maires opposant au projet de CIGEO, comptait, je crois, 9 maires il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il n'y a plus un maire qui est élu. Parce que tous ceux qui ont été contre le projet CIGEO se sont fait virer aux dernières élections.
Mmh. Donc dans l'association des élus opposés à l'enfouissement, il n'y a plus que des anciens élus maintenant.
D'accord. Donc ça, c'est ouais. Là, on peut clairement quand même parler de corruption légale. C'est ça, quoi.
C'est la grande nouveauté du projet CIGEO qui est dénoncé, c'est que on se retrouve avec un projet qui va provoquer des nuisances et on apporte des contreparties avant même que les nuisances arrivent. Mmh. C'est à ce niveau-là qu'on peut parler d'achat des consciences.
Et là, aujourd'hui, la situation à Bure, où ça en est au niveau tant de l'avancement du projet CIGEO qu'au niveau des résistances?
Donc au niveau de la situation du projet, c'est en 2019, l'année prochaine.
Cette année.
Ça y est.
L'Andra doit déposer la demande d'autorisation de création. Donc, c'est un moment très important. Jusqu'à présent, il est complètement interdit d'enfouir quelques déchets nucléaires que ce soit et de fabriquer quelque chose dans ce sens.
On va passer du projet de recherche
à laboratoire et la demande d'autorisation de création.
On va passer à la phase industrielle.
C'est le moment où l'État valide et dit OK, on peut utiliser cette solution pour gérer les déchets, commencer à construire le site. Mm-hmm. C'est ça qui doit se passer. Donc, il y a 3 ans d'instruction du dossier. C'est en 2022 que sera donnée ou non la demande d'autorisation de création du site. À partir de là, ça devient un projet qu'a choisi la France. Mmh. Et à partir de là, pareil, il y a toujours un petit peu des trucs dans nos lois. Un nouveau chef d'inculpation qui peut nous tomber dessus quand on est militant, c'est atteinte aux intérêts scientifiques et technologiques de la France. Mmh. Voilà, tout est bien conçu.
Ouais, c'est clair. Et là, du coup, avant de venir à Lille, vous êtes passé par Nancy, justement, pour soutenir des camarades qui passaient en justice.
Hein. C'est ça, oui.
Et comment ça s'est passé, d'ailleurs, le procès? C'était sur quel type d'inculpation et
donc,
combien de personnes?
C'était précisément sur le bois Lejeune, sur la chute du mur.
D'accord.
Et donc, 2 personnes sont inculpées. C'est pas des jeunes, de tous les jeunes qui sont venus à Bure récemment. Mm-hmm. C'est 2 anciens de la lutte qui ont été attrapés pour passer au tribunal. Voilà, mm-hmm. C'est un peu pris en exemple.
D'accord.
Et donc aujourd'hui, tous ces procès, c'est beaucoup d'énergie, c'est
beaucoup d'argent aussi.
Voilà, beaucoup d'argent, beaucoup de pression en face, parce qu'on a sur les 2 personnes, une qui avoue être sur place, mais la deuxième qui dit depuis le début qu'elle n'est pas sur place. On lui montre des photos floues, on lui sort des tas de trucs pour dire qu'elle est sur place, et elle a toujours nié avoir été là, et pourtant elle se retrouve inculpée au même titre que l'autre. Mm-hmm. Avec une peine de, je ne sais plus combien, mais c'est autour de 300-400 euros.
Non, 4 000 euros et 4 mois de prison avec sursis.
4 mois de prison avec sursis, voilà.
Voilà. Donc là, c'est le procès en appel, dans la cour d'appel de Nancy. Et le compte-rendu, comment ça s'appelle,
délibéré.
Le délibéré, ça va être le 21 mars.
D'accord, ouais.
Donc on va voir ce qu'on va voir.
Ouais.
Ouais. Mais a priori, on a du mal à gagner en justice.
Hein, ils ont dit qu'ils n'ont pas senti la justice très ouverte à la discussion sur le procès. Et, ils ne le sentent pas trop à vouloir changer la décision de base.
Ouais, étonnant. Ouais, étonnant.
Étonnant.
Ouais. Et puis il y a quand même pas mal de monde qui sont, même en ce moment même, en préventive ou qui ont été foutus derrière les barreaux. Quoi.
Voilà, oui. Il y a beaucoup de choses.
Interdits de territoire, il y a beaucoup de gens qui ont été interdits de territoire. Des gens qui n'ont plus le droit de se parler entre eux. Hein, beaucoup
ils sont mis en examen. Donc quand t'es mis en examen, t'as pas le droit de communiquer l'un l'autre.
Ouais.
Et donc ils ont mis un peu en examen tous les, on va dire, les leaders, enfin ceux qui étaient un peu les personnes historiques qui avaient un petit peu le contrôle de l'opposition.
Ouais, et puis des gens qui organisent depuis toujours des petits festivals, des moments, des réunions, etc. Que c'est des gens qui ont 70 balais, qui sont plutôt des tranquilles. Et c'est ceux-là qu'ils ont pris, c'est ceux-là qu'ils accusent. Les gens, ils en souffrent. Il y a des gens qui ont été perquisitionnés à 6h du matin, en gros boum-boum. Des gens qui, depuis un mois, ne dorment plus, ont du mal à reprendre la lutte. Ils nous cassent tous.
Bah, reprendre la lutte, c'est très difficile parce que les gens n'ont pas le droit de se parler. Donc, ils n'ont pas le droit de se rencontrer. Donc, on ne peut plus coordonner quoi que ce soit. Quoi. Ils ont décapité à la fois les gens qui avaient à Bar-le-Duc, à Commercy, enfin tous les trucs autour où il y avait l'opposition. Tous ces gens-là étant perquisitionnés, sont mis en examen, donc n'ont plus le droit de se voir. Quoi.
Voilà. Donc, même humainement, c'est uniquement sur soupçon, c'est des personnes qui ont vécu ensemble, qui ont l'habitude de partager des moments et qui d'un coup ne peuvent plus se voir. Mm-hmm. Humainement, c'est quelque chose d'un peu terrible à vivre, hein, sûrement.
Ils se servent de cette loi-là qu'ils ont appelée, je ne sais plus comment.
Malfaiteurs.
L'association de malfaiteurs.
L'association de malfaiteurs.
Ouais. Mm-hmm. Donc, il y a une loi antiterroriste qui a été mise en place il y a une paire d'années là, pour lutter contre je ne sais plus quelle. Et qui, une fois que c'est mis en place, eh ben, ça reste, et puis après, on s'en sert pour d'autres choses. Et là, c'est vraiment commode, quoi. Ce genre de loi pour briser des oppositions comme ça, c'est parfait.
Ouais. Ouais. Alors que bon, si on y regarde de plus près dans l'histoire, les terroristes, ils sont plutôt du côté de l'industrie nucléaire entre nous, quoi. Et au niveau du coup des résistances, là, parce que je sais que ça a été un petit peu rude, là, depuis, on va dire depuis printemps 2018, quoi.
Février, ouais.
Février, ouais. Février, les expulsions, l'expulsion du Bois-le-Jus, en fait, depuis ce moment-là.
L'expulsion du Bois-le-Jus, beaucoup de présence policière dans le coin, beaucoup d'attaques personnelles par des perquisitions, comme on en a parlé. Mm-hmm. Les interdictions des personnes de se voir. Et aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, pour l'instant, je pense que la lutte est en train de se rechercher une nouvelle... essayer de renaître un petit peu de tout ça, maintenant, et puis se retrouver une forme d'action.
Ouais.
Il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a tous les projets qui coûtent et il y a beaucoup de demandes de soutien pour pouvoir financer tout ça. Nous aussi, les buralards, on participe à venir jouer sur des endroits où on fait des collectes pour ça. Mm-hmm. Et voilà, donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues à Bure. Comme on disait, sur Bure même, c'est pas forcément facile de se rencontrer, mais c'est aussi très recommandé de créer des comités de soutien à l'extérieur, dans les différentes villes, et d'avoir des gens qui sont là, qui des permanences où on a de l'information, c'est ce qui se passe, avoir des réseaux qui sont tissés, mais des réseaux actifs, formalisés, où on n'agisse pas seulement depuis Bure, mais qu'on parle de plus en plus de ça et que l'opposition se manifeste de plus en plus.
Bah oui, parce que c'est pas du tout, même si les premiers concernés, évidemment, c'est les habitants de la zone où va se faire le projet, s'il se fait, espérons que ce ne soit pas le cas, mais bon. C'est tout le pays,
avec
toute l'Europe.
Avec le nucléaire, ce qui est bien, c'est qu'on est tous voisins, quoi. On est voisins de Tchernobyl, de Fukushima,
Exactement.
Ouais, de Fessenheim.
Manifester, tout le monde manifester. Faut les stopper.
Vous venez d'entendre les Buraleurs. Alors vous pouvez les retrouver sur internet via il y a des morceaux sur YouTube. Ils ont également un site internet et page Facebook Bure Bure plus loin à l'heure Haleurs.
Et une petite précision, ils ont évoqué plusieurs fois dans l'interview le bois le jus, mais sans nécessairement préciser de quoi il s'agit. Le bois le jus, donc, c'est sur la commune de Mandre et Barrois, juste à côté de Bure. C'est un... là où, a priori, dans le projet CIGEO tel qu'il est actuellement conçu, eh bien, c'est l'endroit où émergeraient les puits de ventilation permettant donc de dégazer, hein, comme ça a été plusieurs fois dit, les, tout ce qui est notamment l'hydrogène et autres gaz potentiellement et très sûrement toxiques qui auront été accumulés dans les galeries où seront enfouis les déchets atomiques. Et pour la petite histoire, le fait que la commune de Mandre-en-Barrois cède ce bois à l'Andra dans le cadre donc du projet CIGEO, ça a été voté dans un territoire agricole en pleine période des récoltes et un samedi matin à 6 heures. Voilà, à 6 heures du matin. Donc, on voit à quel point les processus entre l'Andra et les communes sur cette zone sont extrêmement démocratiques, n'est-ce pas ? Voilà. Et le bois le jus, donc l'Andra avait construit ensuite un mur d'enceinte tout autour de ce bois pour empêcher d'y accéder et commencer éventuellement dans la perspective des travaux qui ne sont toujours pas autorisés. Ce mur était illégal. Il a donc été abattu lors d'une manifestation. Ce pourquoi un certain nombre aujourd'hui de militants se retrouvent mis en examen et inculpés d'ailleurs. Donc voilà, eux, pour avoir abattu un mur illégal, par contre, eux se retrouvent menacés de peine en justice. Et donc le bois avait, après l'abattage du mur, été occupé pendant un an et demi par celles et ceux qu'on avait surnommés les chouettes hiboux de Bure et qui avaient investi le bois avec des cabanes dans les arbres et au sol, un petit peu partout. Et bois qui a été donc évacué en février 2018, donnant, il faut quand je le redis, même si ça a déjà été dit dans l'interview, quand même un sacré coup au moral des troupes mobilisées sur place.
Et en ce 14 janvier, émission en direct des points sur les i, et ben sachez que le 14 janvier, dans le calendrier républicain, c'était le 25e jour du mois de Nivose, officiellement dénommé le jour du chat. Donc c'est intéressant parce que, notamment pour signaler aux générations futures le fait que y a des déchets très toxiques qui sont enfouis sous terre, il y a eu des recherches très sérieuses qui ont émané notamment des États-Unis début des années 2000 pour dire qu'en fait on pourrait modifier génétiquement des chats qui changeraient de couleur de ce fait-là à l'approche des ondes radioactives. Donc on y est là sur le jour du chat. Et il y a également, toujours aux États-Unis, eu un accident dans un site d'enfouissement de déchets nucléaire militaire à 640 mètres de profondeur. Et bien ce qui devait servir à solidifier les déchets radioactifs, en fait il y a eu une erreur de commande c'était de la litière pour chat en fait qui devait servir dans les fûts à solidifier, et il y a eu un petit bug, donc une vingtaine d'ouvriers irradiés et puis 2 milliards de coûts juste pour s'être trompé de litière pour chat. Donc voilà, toujours est-il que c'est bien. En ce jour du chat, on rejoint avec les déchets radioactifs et ça permet de faire quand même, non pas une pause, mais une continuation musicale grâce à la marraine qui n'est même pas au courant de l'émission, Brigitte Fontaine, chat.
Une des marraines.
Des alcôves, dieu des greniers, vrai tueur né, royale bête, enfant poète. Nuage chaud, au frais museau, pierre précieuse, fleur amoureuse, viens dans mes bras. de vin au flanc des reins, âme d'orange, visage d'ange. Roi de fourrure, triangle pur, gueule d'amour, masque en velours, viens dans mes bras. Empereur, chat dédaigneux, tendre et fiévreux, petit volcan rouge et crachant. Dents de dentelle, nacre cruelle, morsure exquise, cheval de frise, viens dans mes bras. Sorcier, bijoux doré, cœur de bandit, rouston joli. Grandis, grandis, sois mon mari, mais halte là, n'attaque pas, viens dans mes bras.
Non, après ma chronique.
À vous, à nous. Monsieur Christophe.
Oui, j'ai longtemps hésité avant de dire ce que je vais dire, mais enfin, je me suis rendu compte au moins que ça serait novateur, puisque, me semble-t-il, je n'ai entendu poindre nulle part cette proposition d'analyse presque, je dirais, historique et poétique. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a des personnes qui, à un moment donné, émergent parce qu'elles ont été à l'initiative d'une idée qui a été reprise, ou ils font des communications sur le net qui sont très suivies, plus suivies que d'autres, ou bien parce qu'ils ont été, alors j'en ai déjà parlé, ça c'est très savoureux quand même, choisi, repéré et invité par les deux chaînes de médias continus, LCI et BFM, dont je rappelle que LCI c'est le groupe TF1, donc c'est Bouygues, hein, faut que les choses soient toujours rappelées parce que ça peut sembler des évidences de le savoir, mais enfin tout le monde ne le sait pas, donc il faut savoir que LCI c'est TF1 et donc c'est monsieur Bouygues, et que BFM c'est monsieur Drey. Voilà, comme ça les choses sont claires, et sont des gens qui, bien sûr, faut-il se demander pour qui ils ont appelé à voter et pour qui la campagne a été faite lors de la dernière présidentielle. Ça me semble aller de soi, ils étaient en marche, si je puis dire. Et donc certains entre guillemets leader, porte-parole des Gilets jaunes, passe par l'opération du Saint-Esprit dans les médias officiels. Pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas de questions là-dessus, sauf à me demander quels sont les critères de présélection et pourquoi cela plutôt que d'autres. Mais je ne veux pas entrer dans ce débat, mais enfin, ça mérite quand même d'être souligné. Et donc,
il y a l'idée d'être télégénique, un peu comme...
Voilà, oui, peut-être. Peut-être que c'est un critère. Voilà, je ne sais pas. Enfin, ça m'échappe. Je ne sais pas comment Rutel-Krieff décide de choisir et qui prend les décisions. Ça, ce serait très savoureux d'avoir l'info, mais on ne l'aura pas. Hein. Comment la décision est prise de choisir l'un et l'autre, je n'en sais
c'est
rien.
C'est pas par tirage au sort, non ?
Oui, peut-être. Peut-être par tirage au sort. Oui. Peut-être par tirage au sort. Mais... La France, notre pays, donc, fut appelée il y a un certain temps la fille aînée de l'Église et le roi était le roi très chrétien. Bon, voilà, on l'a oublié, pourquoi pas. Aujourd'hui, on a donc un monarque républicain, Jupiter dans sa verticalité, etc., etc. Et quand on est sur le net, on met des posts. Jusqu'ici, tout le monde m'a suivi, puisque maintenant la langue française a prodigieusement progressé et qu'elle est truffée de termes anglais pour que ce soit plus punchy, pour que ce soit plus cash. Donc, sur le net, virgule, on poste des posts. Voilà, très bien. Et puis, quand on est content, quand on est d'accord, etc., on a une solution créée par les plateformes du net, Facebook, etc., etc., c'est le like. I like, c'est pas le j'aime, ou j'apprécie, ou je savoure, ou je suis d'accord. La langue française est très riche, on pourrait avoir une batterie, une palette de possibilités pour aimer, c'est I like. Bon. Tout le monde comprendra que si je retiens post...
Ça se voit que t'es un spécialiste. Hein.
Oui, pourquoi?
parce qu'il me semble que c'est adapté dans chaque langue, like, tout ça...
Oui, mais enfin, pour la langue française, c'est...
Puis c'est vrai que dans les médias, à chaque fois, ils parlent du nombre de likes.
Oui, c'est vrai, ils disent pas le nombre de j'aime. Ouais.
Voilà, je suis désolé, en France, j'entends pas Tevolio Bene ou Schliebedir ou etc., où j'entends like. Voilà, oui. Je suis français, j'entends like, et je trouve ça tout à fait normal qu'on dise like aujourd'hui, parce que je suis un individu moderne qui a été programmé, et donc mon écoute a été modifiée au fur et à mesure par l'enrichissement lié à la langue anglaise, très performante pour la technologie. Bla, 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 words, words, words. Donc, des posts et des likes. Si on rassemble les deux, si on les additionne, ça fait donc post-like, et puis, pour aller jusqu'au bout, apostolique. Voilà, apostolique. C'est pas apostolique, c'est apostolique. Alors, retenez cela, c'est ma création. Pourquoi? Parce que apostos, apostolique, apostos, c'est le messager. Hein, c'est le porte-parole, c'est le messager, c'est celui qui porte la parole. Et en effet, tous ceux qui ont mis des posts sur le net et qui ont eu plein de likes deviennent spontanément les messagers de la cause, du mouvement, des idées. Ce sont donc les apostolaques. Voilà. C'est à retenir. C'est ma création. Breveté David. Je pense que dans la semaine prochaine, ouais, ce sera écrit dans le Canard Enchaîné. J'en suis presque sûr. Pourquoi pas? Nous sommes écoutés. Ou que peut-être ce sera repris par l'un ou par l'autre, puisque... on est parfois plus écouté qu'on ne pourrait croire. Et pourquoi je dis cela? Parce que j'en ai repéré quelques-uns. Il y en a un qui s'appelle Maxime Nichols, voilà. Lui,
tu le dis à l'américaine, quoi. Maxime Nichols.
Oui, Maxime Nichols. En plus,
c'est Nicole. Hein. C'est Nicole, tout simplement.
Maxime Nichols. Mais il a un surnom Super Flyer, enfin l'équivalent de ça.
Super Flyer. Je sais rien. Ouais.
Mais si hier on me l'a rappelé, Skype.
Non, mais Super Flyer, c'est pas mal.
Non, il a un surnom. Je sais qu'il a un surnom. Maxime Nichols. Il a un surnom que j'ai oublié. Américain. Il a d'ailleurs toujours une casquette, comme ça je l'ai retenu en voyant la TV. Ah bah il a une casquette en arrière, ouais. Et il est un peu rouquin, donc il est très, bon voilà, c'est le côté, un peu le Brad Pitt du mouvement, si je puis dire. On a Ingrid Levavasseur, alors c'est un peu, elle parle beaucoup de la souffrance, elle est aide-soignante, elle est très gentille, une voix très douce, c'est un peu une Marie. Donc on a Maxime Nichols qui lui dit... en parlant des attentats, qu'il ne sait pas si tatata, il croit ce qu'il voit, donc c'est un peu Thomas. On a Ingrid Levavasseur, c'est un peu Sainte Ingrid, une espèce de Marie.
Marie-Madeleine.
Voilà, ouais, pas Marie-Madeleine, Marie, roux. Voilà. Et puis, on a les gilets jaunes en colère, Drouet, qui a été dans une garde à vue, qui l'a un peu préfabriqué, donc c'est un peu Simon le Zélote. Donc on a quand même un mouvement... dans la fille aînée de l'Église, la France, avec des apostolats qui témoignent, qui semblent un peu se coordonner. Mais tout le monde a noté qu'il ne faut pas de personne centrale. Il n'y a pas pour le moment de sauveur, de rédempteur, de Christ, de Messie. Ça, c'est un poste très délicat. On sent que dès qu'il y en a un qui souhaiterait le prendre, il se fait tout à fait dégommer par les autres. On ne le supporte pas. Donc il y a ce mouvement qui grandit. Et puis, il y en a, alors là, j'aime beaucoup. Il parle de manière côteleuse, patelin, très calme, très doux. Il s'appelle Benabar, j'oublie toujours son nom. Voilà. Et lui, c'est celui qui, de toute façon, tout le monde l'a retenu, qui propose de manière permanente sur les médias officiels la fédération des Gilets jaunes et la création d'une liste européenne. Voilà. Donc on a une liste européenne. Et là, je terminerai là-dessus. Quelque chose, on oublie l'histoire. Il fut un temps quand Michel Rocard était président du Parti Socialiste et que...
Du Parti Socialiste.
Quel lapsus. Et que
très bon là au niveau jeu de mots là.
Oui. Et puis j'ai Baptiste qui est très allongé sur sa chaise et qui roule et qui fait des signes. Donc je ne sais jamais si je suis en train d'être bon ou tout à fait à côté de ma plaque. Mais ça,
c'est le mouvement, je devrais
être tout à fait indépendant d'essayer de comprendre si mes camarades me suivent ou ne sont pas très contents de ma ligne. Vous savez, c'est très très délicat de parler en direct. C'est pas très simple. Donc, ma chute, elle est quand même assez intéressante et pas trop coconne. Quand François Mitterrand, Machiavel, était au pouvoir président de la République française, il y a eu des élections européennes, elles s'approchent dans 6 mois, et d'un seul coup, on a sorti du chapeau Bernard Tapie, qui a créé une liste, et cette liste a cassé le score de Michel Rocard, qui était le grand souhait de François Mitterrand. Quelle manœuvre, quel stratège. Et aujourd'hui, au moment des élections européennes, Bernard Tapie, qui est toujours vivant et qui a d'abord témoigné de sa lutte contre le cancer, dont tout le monde se souvient qu'au niveau du foot, au niveau de la corruption, au niveau des sommes d'argent de son yacht, de son hôtel particulier, alors lui, attention, hein, c'est un solide,
state-made man.
Voilà, self-made man.
Non, state-made
man. Eh bien, Bernard Tapie, lui, il passe sur BFN, le lendemain, il passe sur LCI, il est invité à lui tout seul, et il commente, il devient le grand spécialiste, il devient en quelque sorte, lui aussi, pas un apostolat, parce que c'est la vieille école, une espèce de grand prophète, puisque voilà. Et puis, il prête ses locaux du Provençal, et il comprend, il donne des conseils, etc. Comme c'est étrange que ce soit Bernard Tapie qui, du vieux monde, si je puis dire, des pépères et des vieux crocodiles, soit le seul qu'on ait sorti du chapeau, disant que lui comprend, donnant des conseils, étant la manœuvre. Ça, c'est parfait. Enfin, c'est la touche vraiment que j'ai trouvée tout à fait subtile. Voilà. Alors, c'était la chronique apostolaque. Nous verrons bien. Enfin, de toute façon, certains qui semblent plus aimés que d'autres au niveau des likes, sont très intéressants et rafraîchissants au niveau de ce qu'ils peuvent dire. Mais enfin, il faut bien sûr séparer le bon grain de l'ivraie. Chacun a sa conscience, chacun en quelque sorte peut trouver un gilet jaune plutôt obsédé par Marrakech, si je puis dire, un gilet jaune qui est en train de parler de l'impôt sur les grandes fortunes, etc. et d'avoir des éléments très précis pour la justice fiscale, etc. Bon, enfin, voilà. Nous sommes tous des gilets jaunes, comme le dit Marine Le Pen pour sa liste. Donc à chacun de choisir son gilet jaune maintenant. Voilà.
Eh bien, d'ailleurs, à ce sujet-là, cette diversité, c'était intéressant. Les mecs des Buralleurs m'expliquaient qu'ils sont allés faire de la musique sur un rond-point près de chez eux contre le nucléaire. Ils sont arrivés avec une banderole. Ils ont été le samedi extrêmement bien accueillis, joués pendant plus de 3 heures. Les gens étaient enchantés, leur ont demandé de revenir le lendemain, ce à quoi ils ont dit oui. Et alors, il avait plu, la banderole était trempée, donc ils l'ont laissé dans la cabane qui avait été construite près du rond-point. Et le lendemain, quand ils reviennent pour venir jouer de nouveau, et bah, ce coup-là, ils tombent sur un bonhomme qui leur dit « Ouais, bah, le nucléaire, il n'y a pas d'autre solution, votre banderole, c'est de la merde, je l'ai brûlée, et cassez-vous. » Et donc, sur le même rond-point, entre le samedi et le lendemain, le dimanche, les personnes, un coup, les accueillaient à bras ouverts en disant « C'est génial », et le lendemain, un type tout seul, et il y avait beaucoup moins de monde, et qui, semblait-il, avait un certain ascendant sur les autres présents, eh bien, leur dit de se casser. Voilà, donc ça montre aussi à quel point, sur un même rond-point, ça peut être divers selon les heures auxquelles on passe.
Eh oui.
Je pense qu'il est pas trop suivi sur Facebook, le général de Villiers.
Mais
vu que t'as évoqué la semaine dernière là que tu l'as aperçu chez Ruquier.
Aperçu.
Ouais, tu l'as aperçu chez Ruquier. Bah en fait, je me suis dit je vais faire un montage là-dessus, mais quand j'ai vu que l'émission On n'est pas couché avec le général de Villiers, il avait eu quand même 54 minutes d'interview samedi soir, le samedi 17 novembre, hein, pile le jour du début du mouvement des Gilets jaunes. Bah en fait, je me suis rabattu sur une émission qui durait quand même moins longtemps, 25 minutes, hein, parce que faut pas, j'ai d'autres choses à faire aussi qu'écouter le général de Villiers. Et donc là, c'est des extractions de l'émission C'est à vous du 6 décembre, monté avec un son que vous reconnaîtrez peut-être. Ça s'intitule donc ce montage Gêne et râle de Villiers.
Quand la crise arrive, c'est là qu'on voit le chef. Vous savez, en opération, moi j'ai connu ça, hein. Dès qu'il y a le moindre souci, qu'on commence à avoir des blessés et des morts, on se tourne vers qui ? Vers le chef. Et là, on voit le chef. Le chef qui est en pleine forme, qui a du recul, qui sait juger et qui sait décider. Voilà. Et c'est comme ça. Et ensuite, la crise, on adapte, on gère, on essaie de donner une stratégie et on joue avec la tactique. C'est ça, le chef. Je l'explique dans mon livre à partir de mon expérience.
Pierre de Villiers.
Ils sont là juste parce que tu t'appelles.
Pierre de Villiers.
Au début, pour des raisons d'organisation personnelle, je voulais publier en mars 2019. Et je me dis, on ne va pas attendre, ce n'est pas possible.
Ne te laisse pas le temps de gagner du temps.
Pierre de Villiers.
Car le temps, c'est de là, là,
je l'ai aussi senti. Que vous le dites.
Pour me faire respecter, je vais tout casser. Hey, 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 je vais tout casser. Hey, je vais tout casser.
Dédicace.
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 Je vais tout casser.
Chacun responsable de faire ses propres choix, de son propre chef. Toute autorité est un service. Ça, c'est l'autorité vivante. C'est la vraie autorité. Dans les dédicaces, on se tourne vers qui ? Le chef, la vérité, la performance. Je crois que l'institution militaire est respectée et de plus en plus populaire. On adapte, on gère, on essaie de donner une stratégie et on joue avec la tactique. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Il a fait feu. La vérité, il a fait feu. Dès que la menace change de camp, dès que la faiblesse change de camp, dès que le doute change de camp, c'est là où c'est grave. Il y a des procédés tactiques pour répondre à cette menace. C'est facile. C'est fondamental. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce mouvement-là. Il faut être clair. Ce que les jeunes casseurs d'aujourd'hui attendent. Qui exécutent, qui obéissent au bas de l'échelle. C'est l'idée maîtresse de mon livre. Il faut que la force l'emporte. Il faut que la fermeté l'emporte. L'initiative, c'est auctoritas, augmenter, élever vers. C'est ce mouvement-là. Il faut rétablir ce lien de confiance qui est la clé d'une obéissance d'amitié, une obéissance là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. C'est ça qu'il faut faire. Si on est une institution si vivante, si efficace, et qu'on va jusqu'à emmener des jeunes d'aujourd'hui au combat, jusqu'au sacrifice suprême, c'est qu'ils le font pour la France, pour les valeurs, pour la patrie, pour leur chef, et que ça fonctionne. Dédicace. Dédicace. Il se trouve que mon livre est sorti juste au début des Gilets jaunes.
On va tout casser, hey, on va tout casser, hey, on va tout casser, hey,
l'homme est en train d'organiser
casser,
sa propre
hey,
éviction.
Casser, hey,
c'est quand même
hey,
inénarrable. J'ai écouté, j'ai entendu, et puis un moment, j'ai pris ma décision. Ce moment, je le dis dans mon livre Servir, c'est le lundi à midi.
Yalla, yalla. Salut, lundi, midi, c'est l'heure des points sur les i.
Point barre.
Avec les camarades de l'association Davids, déploiement de l'art vital intersubjectif qui déconstruit sur la brèche. Davids contre Goliath.
Vous avez vraiment, vraiment des... des manières que j'adore.
Je vais tout casser.
You, 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 you.
Beaucoup d'années sont passées.
You, 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 you.
Combien de traites j'ai dédicacées.
You, 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 you.
Je suis un traceur, je fais que tracer.
You, 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 you.
On me dit tu viens d'où. Je me ressens fou. J'écoute tous les jours en
Bon, allez, on va couper Jules, ou Jules en français, en fait, Jules. Et donc voilà, vous avez entendu un montage réalisé à partir de ce qu'a dit le général de Villiers sur France 5 le 6 décembre. Vous pouvez écouter l'intégralité, 25 minutes si vous avez le temps et le courage. Vous verrez que c'est très peu monté, quoi. Le fond de sa pensée est quand même présente. Et donc de ce fait-là, ça m'a fait penser que lui, il fait des dédicaces tout en contestant la casse. Il a provoqué la sortie de son bouquin qui devait normalement sortir en mars. Et ben, il l'a un petit peu avancé, quoi, pour, on va dire, je pense que ça fait vendre plus. Hein, mm-hmm. Ça tombe bien, qu'est-ce qu'un chef, là. Juste pour préciser quand même que ces deux bouquins-là, donc Servir et Qu'est-ce qu'un chef, donc en plus il est productif, hein, deux bouquins en 14 mois, le gars. C'est chez Fayard. Et Fayard, si on se renseigne un minimum, on apprend notamment au début des années 20, dans la nouvelle collection Les Grandes Études Historiques, c'est Pierre Gaxotte qui a été nommé à la tête de cette collection Fayard au début des années 20. C'est un Maurassien, Pierre Gaxotte, hein, en 17, c'est d'ailleurs Artem Fayard, le fondateur, donc, qui le recommande à Charles Maurras, dont il devient le secrétaire de nuit. Pierre Gaxotte, régulièrement à l'Action française. En 1930, Fayard lui confie la direction du journal « Je suis partout ». Il y sera remplacé par Robert Brasillac. Ben oui, parce que « Je suis partout », c'est lié à Jean, le petit-fils, donc Jean Fayard, lui, qui a signé des éditoriaux pour « Je suis partout » jusqu'en janvier 1939. Retour à la maison Fayard qui publie donc maintenant le général Pierre de Villiers. Cette série donc inaugurée par l'Histoire de France de Jacques Bainville. C'est un historien royaliste et cofondateur de l'Action française. Et dans ce catalogue de chez Fayard, Grandes Études Historiques, seront publiés de nombreux auteurs de la droite nationaliste. Et il y a une plus petite collection chez Fayard à cette époque-là, qui s'appelle Les Grandes Études Politiques et Sociales, qui est éditée Maurras. Et en 1942, on trouvera même Ma Doctrine, hein, d'Adolf Hitler, publiée en 1942, donc une sous-maison de chez Fayard. À noter que Jean Fayard a également dirigé la publication du dit grand hebdomadaire pour tous, RIC, R-I-C, et RAC, de 1929 à 1944. Comme quoi, on y arrive, petit à petit. Ça se recoupe.
Et oui, ça se recoupe. Voilà, il suffit de creuser les sources, d'autres commentaires. J'avais déjà parlé du général de Villiers. Merci pour ce montage. J'avais été fasciné par le côté batracien en train de regarder des poissons, en train de regarder de Villiers. Ils étaient tous chez Ruquier quasi subjugués par sa prestance. Et voilà. Après, je ne le connais pas, nous verrons bien, mais enfin, il est clair qu'il se met en pole position pour, sinon rafler la mise, du moins dire que lui, il sait ce que c'est qu'être un chef, et que c'est vrai que, par les temps qui courent, la démocratie, la République, bon, d'un ancien chef d'état-major qui nous rappelle ce que c'est qu'un chef, bon, le désordre, l'ordre public, bon, on aura compris, enfin, les choses se préparent, hein, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. On sent que par rapport à un bruit de bottes, il faut de l'ordre, et etc., etc., on a quand même là, si on réfléchit bien, quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Voilà.
Pierre Le Joli de Villiers de Saint-Ignu.
Voilà. Bon.
Et il va être l'heure pour nous de laisser la place à Arnaud Del Barrio Jazz, donc à 13h. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, Les Points sur les i.bar, où nous diffuserons la chronique du camarade Roro, que nous n'avons pas eu le temps de diffuser cette semaine. Donc, restez à l'écoute de Radio Campus Lille 106,6 ou campuslille.com.
Podcast pendant 2 mois sur le www.campuslille.com.
Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio.